sais, le parisianisme, on en parlait.
Des connards de parisiens, quoi.
Moi, je suis bretonne, expatriée à Paris. Mais je trouve pas que les parisiens sont tous des connards, hein, mais quand même.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Quel bonheur de vous retrouver tous, même ceux d'entre vous qui nous écoutez ailleurs qu'à Paris. Car oui, Manon, je ne peux pas vous ménager plus longtemps après 552 numéros de Zoom Zoom. Vous êtes, je crois, enfin prête à découvrir la vérité. On nous écoute aussi au-delà du périphérique. Pendant que les stagiaires réaniment la Marianoche en l'éventant avec le catalogue printemps-été du bon marché, je vous présente notre sujet du jour, le parisianisme. Ce vieux phénomène qui perdure, ce snobisme qui veut que Paris serait en France la mesure de toute chose, un phénomène qui ne serait pas seulement ridicule mais délétère pour le vivre ensemble à l'échelle de la nation. Notre invité lui consacre un livre dans lequel il estime, c'est le titre, que ce parisianisme écrase la France. Un livre accueilli avec un enthousiasme mitigé dans l'open space de Zoom Zoom Zen. La preuve, l'exemplaire de Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, a été retrouvé hier dans les toilettes du Cornichon, établissement bobo de l'Est parisien, où pour une vingtaine d'euros on se délecte d'un jambon beurre. Alors pourquoi ce mépris persistant de certains parisiens envers la province? Quelles conséquences à l'échelle du pays de ce dédain vis-à-vis des autres villes, sans parler même des campagnes? Pourquoi à chaque fois que Manon loue une Mini Cooper S dans les territoires, doit-elle avancer au son de Parisien tête de chien, Parigo tête de veau, avant même qu'elle ait embouti le Dacia Duster d'un autochtone, ce qui arrive généralement assez vite? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Francis Brochet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Francis. Vous êtes journaliste au bureau parisien du groupe Ebra. Le groupe Ebra, c'est la plupart des quotidiens régionaux de l'Est de la France, comme les Dernières Nouvelles d'Alsace, l'Est Républicain, le Républicain Lorrain, le Bien Public ou encore le Dauphiné. Vous avez écrit de nombreux essais, dont le dernier qui nous intéresse, « Quand le parisianisme écrase la France », qui vient de paraître aux éditions de l'Aube. Qu'est-ce que le parisianisme? Vous dites que c'est l'inégalité française à la fois la plus forte et la plus méconnue. Vous allez nous expliquer tout ça. Juste le temps de vous présenter mes petits parigots, car non, Quentin, non. Pas la peine de vous la jouer, moi je suis un enfant de la terre, j'ai grandi à Alençon, au cœur du bocage normand, patati patata, ça ne prend plus. Les gens voient vos stories,
Quentin. Mais j'ai pas que grandi, j'ai vécu
vos
là-bas.
Vos stories sur les défilés de mode, les grands prix automobiles, ils savent que vous êtes devenu plus parisien que les parisiens. Quentin, ici en tout cas, personne n'est dupe, vous avez renié vos racines pour une place au soleil de la jet set. Le seul lien que vous avez gardé avec ceux que vous appelez désormais les vrais gens, c'est votre micro-trottoir.
Et ça, on pourra pas me l'enlever, il ne me reste plus qu'à vivre dans le 10e, ce qui serait pour moi la rue de l'enfer, peut-être. J'ai croisé des Bretons, des Parisiens normands, et une pote de Manon, je pense, a été prête à boire l'eau de la Seine.
Ah.
Tellement elle voulait me prouver qu'elle était parisienne.
Ah oui, ça va très très loin dans le parisianisme quand même. À vos côtés, Francis Brochet, elle est donc le cœur de ce que vous dénoncez. Je vous dirais bien qu'elle est une image d'Épinal du parisianisme, mais elle risquerait de se demander c'est quoi Épinal. Bonjour Manon.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Manon, aussi contre nature que ça puisse paraître, vous dont les premiers mots à votre collègue Quentin en saison 1 avaient été, je le rappelle, dis donc, tu sens un peu la ferme, toi, mon petit bonhomme.
Oui, mais on est du salon de l'agriculture.
Ah, c'était pour ça. Oui. C'est vous qui nous indiquerez tout à l'heure l'autre personnage à suivre concernant ce phénomène du parisianisme.
Oui, je pouvais pas me présenter moi-même, c'était un peu trop prétentieux, un petit peu trop parisien. Oui. Du
ça
coup.
Vous aurait ressemblé, mais
bon. Merci Quentin. Du coup, je vous parlerai d'une mannequin devenue icône de la mode parisienne.
Vers 16h30, nous jouerons avec le parisianisme, avec un Zoom Zoom test spécial petite phrase, grande connerie, consacrée aux plus belles déclarations parisianistes jamais enregistrées. Oui Manon ?
Et j'ai une question,
non.
Ça fait un peu connasse.
Non, bah alors ne la posez pas, ou attendez au moins le cadre rieur du Zoom Zoom test, ou avec un peu de chance, vos réflexions pourront passer pour du second degré. Juste avant 17h, les amis, on sera rejoint par l'anti-parisien par excellence, un vrai normand, lui presque un viking, Harold Barbet. Après 17h, un sujet qui me fait mal au cœur mais que je tâcherai d'aborder avec dignité et impartialité, la chute de la maison Sciences Po, chute qui reste à prouver. Nous verrons cela. Mais d'abord, Francis Brochet, votre livre s'appelle donc « Quand le parisianisme écrase la France ». Est-ce que c'est un phénomène qui tend à s'accentuer avec le temps ou au contraire à s'équilibrer finalement ?
Non, je pense vraiment que ça s'aggrave. Et j'habite Paris, je suis de Montbéliard, mais j'habite Paris. Étant à Paris depuis quelques années, je constate que ça s'aggrave. Alors, vous savez, aujourd'hui, on a publié des chiffres sur la population de Paris qui va légèrement diminuer, alors que la population de la région va augmenter de manière importante. Ça, c'est le phénomène central. Toujours moins de Parisiens, toujours plus riches, avec plus de pouvoir. C'est ça la tendance lourde.
D'où un sentiment de supériorité
Oui, parce que quand vous concentrez tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques, culturels, économiques, médiatiques, hein, dans une seule ville, bah vous pensez aussi contrôler et concentrer toutes les intelligences. Ça va de soi.
On va revenir en détail sur ce parisianisme. Lui aussi, il est très remonté contre ce phénomène du parisianisme, et ça ne date pas d'hier. Quand il était jeune et que le samedi soir, pour lever de la Lacarzouze, il descendait sur Paname avec ses copains de Poto Combo. Il faisait effectivement peur à voir de par son accoutrement loin, très loin des modes parisiennes. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et tous vos amis de Panto Combo.
Je les embrasse.
Racontez-nous, Cyril, vous qui en avez été victime, le parisianisme, d'où ça sort ?
À la Courneuve, Pantin,
Parisien tête de chien.
À la sortie du Lido,
Paris, tête de veau.
Y a des gars pas très fins,
Parisien tête de chien.
Qui saute sur ton paletot.
On l'entend même, cette petite phrase, dans Les Bronzés font du ski, oui. Quand la bande arrive dans le village de Montagnard, les gamins qui disent ça, juste avant de déguster la fougne.
Ah.
Et puis, les Parisiens, il y a aussi eu ça.
Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal.
Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. Une campagne de pub du quotidien lancée en 1999. Je me souviens qu'elle passait dans les cinémas et que ça faisait rire les gens dans la salle.
Bah oui.
Vous imaginez s'il y avait eu la même chose avec une ville de province. Mais comme c'est Paris, la capitale, ça passe. La faute aux Parisiens, bien sûr.
Bien sûr, mais alors, quand est-ce qu'est apparu vraiment le parisianisme ?
En fait, on l'entend dès le 19e, notamment dans la bouche et sous la plume de ceux qui reprochent aux Parisiens de décider pour tout le monde et de tout savoir mieux que tout le monde. Un exemple, celui de Gustave Vapereau, qui s'est fait connaître grâce à ses dictionnaires, le Dictionnaire universel des contemporains et le Dictionnaire universel des littératures. En 1866, il écrit ceci. « Le parisianisme est cette manière prétentieuse de croire que Paris est la mesure de toute chose. Une défiance qui ne va faire que s'accroître, la faute à un pays ultra-centralisé où effectivement tout le pouvoir se concentre dans la capitale et la faute aussi aux Parisiens jamais avares de mépris vis-à-vis des provinciaux, pas vrai Manon ?»
Mon Dieu, avec le gros Bershka là, oh là là, sur la place du village.
Voilà,
oh là là.
Tout ça est terrible aujourd'hui,
c'est
la place du village.
Danger.
On parle danger, absolument. Alors, pourquoi le parisianisme a-t-il la dent dure ? Qu'est-ce que ça raconte des relations entre Paris et le reste du pays ? Est-ce que c'est une maladie dont on guérit, ce parisianisme ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, même si vous avez un peu anticipé sur ce qu'on entendra dans le Zoom Zoom Test, j'aurais dû relire votre douce assort qui s'est bien trop
avancé
aujourd'hui.
Toujours le lire, mon vieux.
Francis Brochet, Cyril nous rappelait cette définition du parisianisme parue en 1860. Le parisianisme est cette manière prétentieuse de croire que Paris est la mesure de toute chose. Est-ce que déjà cette définition est toujours d'actualité ?
Oui, je pense. Être à Paris, c'est donc, comme nous le disions, maîtriser la plupart des pouvoirs. Et c'est avoir vis-à-vis de des territoires, cette vision en surplomb. Ce mot de territoire, au pluriel, c'est important, il a surgi il y a une dizaine d'années à peu près. Et moi, j'y entends, vous l'entendez comme moi, surtout de la part des dirigeants français, moi j'y entends réserve d'Indiens, vous savez.
Pour vous, c'est plus péjoratif que province ?
Mais bien sûr, moi je revendique la province, bien sûr, les régions. Mais le territoire c'est quoi ? C'est juste la France, avec Paris. Les territoires, c'est la France sans Paris.
Sans Paris, c'est autre chose.
C'est la France vue de Paris. Donc arrêtons avec les territoires. Mais ce mot, encore une fois, il décrit la définition que vous venez de donner du parisianisme, c'est-à-dire on est à Paris et on regarde le reste.
Et alors, il faut remonter historiquement. Le Parisien n'est pas à blâmer peut-être en lui-même. C'est la tradition jacobine, la centralisation, qui fait que historiquement, ce sentiment, il est né comme ça, en fait.
Bien sûr, ça vient de très très loin. On sait que c'est l'histoire de France, elle est comme ça. La France s'est constituée à partir de Paris. C'est une volonté parisienne. La langue française, etc. Et puis bien sûr, vous l'avez cité, la Révolution française, les Jacobins, etc. On ne va pas refaire l'histoire de France, il n'y en est pas question. On ne va pas déménager le Louvre en province, bien sûr que non. Ce que je dis simplement, c'est que, c'était la première question, ça s'aggrave. C'est-à-dire que l'histoire, on la prend avec ses qualités et ses défauts, après on peut essayer de la réorienter.
Et là, on ne va pas dans le bon sens.
Et là, on ne va pas dans le bon sens. Dans le livre, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais dans le livre, je fais le bilan des différents plans de relance qu'il y a eu après le Covid, qu'il y a eu après la crise financière. Eh bien, à chaque fois, l'Île-de-France, et singulièrement Paris, est mieux servie que les autres régions françaises. Donc on aggrave l'écart.
Il y a un phénomène que moi je ne m'explique vraiment pas, c'est qu'autant au 19e siècle, on pouvait imaginer qu'effectivement, je ne sais pas, par exemple, les modes arrivent moins vite à Angers, par exemple, et elles sont à Paris, elles arrivent moins vite en province, donc on peut imaginer ce snobisme qu'on peut ressentir quand on est dans, là où ça se passe, mais maintenant, avec Internet, avec, tout le monde sait ce qui existe à Paris, les modes, elles se diffusent en un clic, donc comment on peut avoir ce sentiment de supériorité?
Bah, le sentiment de supériorité se nourrit aussi du sentiment d'infériorité des provinciaux qui arrivent à Paris, hein, les petits Rastignacs, dont je fus quand je suis venu à Paris au début de ma carrière de journaliste. Vous savez, il y a de très belles phrases chez Nicolas Mathieu, par exemple, le romancier, qui vient de Nancy.
Transfuge de classe.
Et il raconte comment, arrivant à Paris, je crois à la Sorbonne, pour poursuivre ses études de lettres, il avait mis des chaussettes, alors je n'y connais rien à la mode, des chaussettes qui étaient censé être à la mode. Et il s'est fait moquer de lui, parce que c'était à la mode à Nancy et pas
mais
à Paris.
Pas là encore,
Et quand vous n'avez pas les codes à Paris, les relations, vous passez pour un plouc.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal, disait la pub d'un célèbre quotidien. Zoom aujourd'hui sur la notion de parisianisme, qui n'est pas sans conséquences. Le journaliste Francis Brochet est toujours avec nous pour son livre « Quand le parisianisme écrase la France » qui vient de paraître aux éditions de l'Aube. Francis, vous dites que le parisianisme est le fruit de politiques délibérées, décidées et mises en œuvre par des élites concentrées à Paris. C'est pas donc le fruit du hasard, ni même de notre histoire et de la centralisation, c'est voulu d'en haut.
Oui, c'est, alors il y a une part d'inconscience en plus, aussi, il faut bien le reconnaître, mais il y a aussi la volonté qui se déploie justement après la crise financière, c'est pour ça que je dis que ça s'aggrave, de dire on va parier que sur les vainqueurs. Vous savez, c'est le ruissellement, et il y a du ruissellement territorial.
On a vu que ça marchait bien, le ruissellement.
Ah, bah, c'est fabuleux. Si on arrose Paris, ça va venir jusqu'à Montbéliard et jusqu'à Carré en Bretagne, forcément. Et donc, c'est quelque chose qui se poursuit de plus en plus. Et vous prenez, par exemple, j'ai cité là tout à l'heure les plans de relance des différents gouvernements. On pourrait citer, à l'inverse, un peu barbare, la désindustrialisation. Bon, il y a des gens très sérieux qui ont montré que si la France a perdu une grande partie de son industrie, c'est parce qu'en France, le patron de l'industrie, il n'est pas au-dessus de son usine, comme en Allemagne
ou
en Italie.
Il n'est pas localement implanté.
Il est à Paris. Les ouvriers, ils les voient de très, très, très loin. En revanche, ils voient de très, très près les financiers. Et ça lui donne une autre vision de l'entreprise. Les entreprises industrielles deviennent des entreprises financières. Et alors, on a cette invention fabuleuse d'un Français qui s'appelle M. Churuc, qui a tué une entreprise et est parti avec 4 millions derrière, et qui avait inventé le concept de « fabless » en anglais, c'est-à-dire sans fabrique, sans industrie. Voilà, c'était très français. On va faire de l'argent, mais on n'aura plus d'usines. Il n'y a que nous qui avons pu imaginer ça, parce que je pense que les Allemands, eux, ils ont gardé leurs usines et ils ne s'en portent pas plus mal.
Vous dites, Francis Brochet, que la fracture entre Paris et la province a explosé au visage des élites au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est cet épisode qui illustre parfaitement le gouffre qui s'est installé et qui s'installe encore entre Paris et la province, pour vous ?
Oui, bien sûr. Il y a une forme d'autisme parisien, parce que on ne voit pas quand on vit à Paris. Alors, les Gilets jaunes, on le sait, ont été largement expliqués par la manière dont les gens se rendent de leur domicile à leur travail. Et ça, les Parisiens ne pouvaient pas le comprendre. Si vous prenez, là encore, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais en gros, les Parisiens de Paris, se rendent pour 70% à leur travail en bus ou en métro, en transport en commun. Bon. On croit que c'est l'Île-de-France. Non, c'est pas vrai. Vous sortez du périphérique, dans les départements alentours, ça tombe, c'est 70%, ça tombe à 50, à 30. Évidemment, c'est la voiture qui prend la place. Et puis après, on dit c'est les métropoles. Eh bien non, non. Vous allez à Lyon, à Bordeaux, à Lille, la part du transport en commun descend de manière très marquée. Donc ça veut dire que quand vous êtes parisien, vous dites aux gens, ben, vous n'avez qu'à prendre les transports en commun. Mais ce n'est pas possible, je suis désolé, à Montbéliard, on doit être à 10% de transport en commun, parce que ce n'est pas possible, tout simplement.
D'ailleurs, vous ouvrez une parenthèse sur le TGV avec cette phrase assez étonnante, quand on prend du recul de la part du directeur général de Voyage SNCF, qui disait à propos de l'ouverture de la ligne Bordeaux-Toulouse, elle mettra la 4e ville de France à 3 heures de Paris. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette petite phrase ?
Ben, elle m'évoque que pour ce monsieur, c'est le parisianisme dans toute sa splendeur, on regarde la France depuis Paris. Donc, on regarde Toulouse depuis Paris. Et il n'est pas venu à l'esprit de ce monsieur, qui est sans doute très respectable, qu'on pouvait aussi penser à la liaison entre Bordeaux et Toulouse. Voilà. Il y a peut-être des choses à faire entre Bordeaux et Toulouse. Et puis même, on peut imaginer que les Bordelais et les Toulousains parlent entre eux sans passer par un Parisien.
Puis vous avez aussi visité le chantier de l'Opéra Bastille à l'époque avec Jack Lang, le meilleur ami de Pierre Courade, on en parlera peut-être. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite anecdote qui en dit long aussi ?
Ah oui, c'est Jack Lang, donc en 1989, on célèbre le bicentenaire de la Révolution française, pour vous dire que j'ai commencé il y a longtemps ma carrière. Et je travaillais pour le Progrès de Lyon, et il y avait une visite de presse de l'Opéra de Paris avant le 14 juillet et le premier grand concert à l'Opéra de la Bastille. Et moi, je dis à Jack Lang, alors ministre de la Culture, je dis, écoutez, moi, je ne comprends pas, autant d'argent dans un nouvel opéra à Paris, il y a déjà l'Opéra Garnier, je ne comprends pas. Et dit, même si c'est nécessaire, enfin bref, il s'énerve un petit peu. Et comme j'insiste, à un moment, il me dit, écoutez, vos lecteurs de Lyon, ils pourront facilement venir à l'opéra, puisqu'on est tout près de la gare de Lyon.
Effectivement, là, je crois que tout le parisianisme est résumé en quelques mots. Il y a 3 ans, lui, il débarquait de sa province par le TER Alençon-Paris. Des étoiles plein les yeux et charriant dans son sillage une lourde odeur de foin qui indisposait Manon. 3 ans plus tard, il s'habille chez Balenciaga et sent Neroli Portofino, le dernier parfum de Tom Ford. Un véritable traître à ses origines, dirait Nicolas Mathieu. Si, vous c'est êtes faux. Un traître, Quentin, non. Là-bas, c'est comme ça. Si, c'est si, au si, Bayokos, si. Il parle de vous comme d'un traître. Quentin, heureusement, vous maintenez un semblant de lien avec le vrai monde en interrogeant les passants sur notre mot du jour. Alors, le parisianisme, j'imagine que ça délie pas mal les langues.
Pour commencer, j'arrête ces 3 amis qui rentrent d'un week-end d'anniversaire arrosé.
Ah oui, le parisianisme, on en parlait. Ah oui. Des connards de parisiens, quoi. Non ? Moi, je suis bretonne, expatriée à Paris. Mais je trouve pas que les parisiens sont tous des connards, hein, mais quand même. Moi, ouais, c'est genre la manière d'être des parisiens. Enfin, c'est comme ça que je traduirais ce mot, mais peut-être que c'est pas du tout ça.
Ah, c'est peut-être plus que ça. Je lui fais quand même lire la définition.
Le parisianisme, je vais arriver, désigne une attitude jugée arrogante, condescendante ou centrée sur Paris. Vivant dans la capitale, c'est exactement ce que j'ai dit. Bah, c'est quelqu'un qui te bouscule dans la rue, qui te dit pas bonjour, qui te dit pas merci, pas s'il te plaît, pas au revoir, classique.
Alors qu'en région, on le fait ? Enfin, en Bretagne, tout le monde se dit bonjour,
oui. Oui. Quand on se rentre dedans, c'est parce qu'on a trop bu. C'est une attitude, une façon d'être qui est désagréable. Mais on s'y habitue, on devient désagréable aussi, hein. C'est pas grave.
Le parisianisme est contagieux.
Exactement.
C'est contagieux. Je fais la connaissance d'Antonin qui attend un train à Saint-Lazare. Il est consultant. Où va-t-il ?
Alors là, je rentre chez moi, je rentre en Normandie. Et en fait, j'ai été dans les Caraïbes sur une mission de suivi évaluation.
Vous habitez où en Normandie ?
À Caen.
Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Le parisianisme. Ça, c'est quand j'étais jeune. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Paris, j'aime beaucoup, mais c'était trop cher, donc je suis parti en province. Parisianisme, c'est un rapport au temps, le fait d'être speed, c'est le fait de pas forcément profiter de la ville, et je vois la différence maintenant, parce qu'en fait, quand je viens à Paris, je marche beaucoup plus, et je prends plaisir à me promener dans Paris, alors que quand j'étais ici, pas du tout.
Mais alors lui, le Parisien, qui a désormais un prisme régional, que conclut-il sur le parisianisme ?
Ouais, on pourrait parler du provincialisme, sur le rapport des provinciaux aux Parisiens. Les Parisiens qui sont mal vus à Caen. Parce qu'on dit qu'ils achètent les maisons, qu'ils achètent les appartements, qu'ils arrivent ici, mais qu'ils ne sont pas d'ici, qu'ils se comportent comme si j'étais chez eux. Donc voilà, moi ce qui me frappe surtout, c'est l'autre côté du parisianisme, à savoir le provincialisme.
Est-ce que ça nous fera un nouveau mot ? Quoi qu'il en soit, le parisianisme se paye en dehors du champ de bataille parisien. Je demande à Nora, arrivée à Paris il y a quelques années, de me parler d'un exemple flagrant de parisianisme.
Tu me prends au dépourvu là, je sais pas. Ah si, dans l'escalier du métro. Au tout début, quand je suis arrivée à Paris et que je me mettais à gauche, et que les gens, tu sais, doivent passer vite à gauche, et que je restais plantée là et qu'on me poussait comme ça. Ça, c'est du parisianisme. Et maintenant, je me mets à droite si je vais pas bouger, et je me mets à gauche si je vais bouger.
Eh oui, on se fait un peu éduquer à la parisienne. Lewis, à la cinquantaine, charme à la parisienne, jean slim, cheveux de rocker, il sourit en découvrant...
Le parisianisme. On est une capitale depuis très très longtemps. On n'a jamais vraiment délégué. On a l'impression qu'on est les rois du pétrole en France et que notre opinion est intéressante pour tout le monde. Et que le parisianisme, on le voit un peu partout dans l'attitude juste des vélos à Paris. Tu as cette attitude incroyable de ce sont les rois du monde à Paris. Le vélo à Paris, c'est...
Ah, est-ce que c'est le paroxysme du parisianisme ? Peut-être. Ma dernière rencontre semble tomber du ciel. Je vous jure qu'avec son impair vert olive, son legging, ses chaussures de running, Morgane, mariée, 4 enfants, s'élance dans la découverte découverte du mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Le parisianisme.
C'est quoi ? De quoi on parle ?
De moi. Ah oui, moi je suis née à Paris, de deux parents parisiens, je suis un pur produit parisien.
Un pur produit parisien. Je lui fais un petit test de parisianisme. Est-ce qu'elle fait des brunchs le dimanche avec les autres parents ?
Je fais des brunchs.
Vous râlez beaucoup ?
Tout le temps, surtout en voiture. Donc je prends les transports maintenant.
Vous râlez quand même un peu dans les transports aussi ?
Évidemment, évidemment. Quand la ligne ferme, on ne sait pas pourquoi, oui, je râle, ouais.
Évidemment. Vous allez voir des expos ?
Je vais voir des expos, ouais.
Fumer des cigarettes ?
Je fume, ouais, j'ai repris là. J'essaye d'arrêter, mais j'ai repris. Parce que c'est le cliché, c'est ça ? Clairement ?
Ah bah, un tout petit peu ! Bon, je demande comment elle se comporte avec les gens qui viennent de région. Eh bien, à la surprise générale, Morgane, elle a épousé un Normand.
Alors, mon mari, il est pas parisien, il est rouennais. Et parfois, il en prend plein la gueule. Ah bah parce que je vais dire... qu'il a des attitudes de plouc. Par exemple, quand il va chercher une place là, pendant 2 heures dans Paris pour bien se garer. Moi, je me gare sur une place de livraison. Je vais pas chercher la bonne place, je vais me garer où il y a de la place. Et voilà, et au plus près de l'endroit où je vais. Mais les livreurs se garent pas sur les places de livraison, eux, ils se mettent en double file. Moi, je prends leur place puisqu'eux sont en double file.
Même là, vous n'avez jamais tort. C'est formidable. Les Parisiens, c'est formidable.
Oui, on est formidable, c'est vrai, j'avoue. Et puis là, on est en finale de la Ligue des Champions, quand même.
Ah il manquerait plus que ça.
Attends, quand je connais aussi, moi, je connais des gens qui roulent sur les voies de bus à Paris. Je connais des gens, hein, je ne donnerai pas de nom. Parce
qui viennent d'Alençon.
Oui, manifestement. Voilà.
Bon, et puis après, on se fait arrêter, voilà, ouais. Ça arrive. Bon, il manquerait plus que Paris soit sur le toit de l'Europe maintenant, entre deux stationnements sur les places de livraison. Le parisianisme, c'est un mélange de condescendance affectueuse et de supériorité assumée. Un art de vivre qui parfois fatigue, sauf quand il séduit, car au fond, le parisianisme, c'est peut-être juste une chose étrange qu'on critique quand on en est loin et qu'on finit par épouser quand on y vit.
Francis Brochet, beaucoup de choses dans ce micro-trottoir, mais un truc qui m'interpelle, c'est ce rapport au temps, qui est peut-être différent pour les Parisiens et pour les provinciaux, puisqu'on ne dit pas les territoires, c'est vrai que ça ne sert à rien. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de parisianisme est-ce que le parisianisme part pas à l'envers, en fait ? Est-ce que ce n'est pas les Parisiens qui jalousent le mode de vie peut-être plus zen, plus cool des provinciaux ?
Oui, c'est une forme de jalousie quand même très rêvée. Hein. Vous savez, c'est Marie-Antoinette et ses moutons, je ne sais pas quoi. Enfin, on l'a bien vu ça au moment du Covid, quand les Parisiens nous disaient on va retourner à la campagne.
Ils sont pas restés longtemps.
C'est sûr que sorti de Paris, il n'y a plus que des vaches et des prés. Quoi.
Il y en a quand même beaucoup qui sont partis de Paris. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un mythe.
C'est un mythe raconté par les médias parisiens. Non, ben, certainement. Maintenant, avec le décalage, tous les chercheurs vous disent que ça n'a pas existé.
D'accord.
Alors, on avait des récits fabuleux dans la presse parisienne de gens qui découvraient tout d'un coup qu'en province, vous savez, il n'y a pas de stress. Ben non, tout va bien. En province, il n'y a pas de problème. Enfin, ils pouvaient découvrir la vraie vie, enfin, etc. Mais tout ça, pardon, moi, je l'entends comme du mépris pour les gens qui vivent en province.
Quand vous dites la presse parisienne, pardon, mais c'est quoi la presse parisienne ?
Ben, la presse parisienne, c'est... Alors, je ne vais pas me faire tout à fait aimer de mes confrères, mais enfin, de facto, vous savez, par exemple, que si l'on prend les journalistes professionnels, les cartes professionnelles, hein, 57% sont à Paris. Donc, ce que l'on raconte de l'actualité française, c'est souvent une actualité parisienne ou vue de Paris. Bon, y a un truc qui a, je crois, fait rire dans toute la province, c'est quand tous les journaux télévisés, écrits, etc., nous ont parlé de ce drame terrible d'un centre de déchets du 17e arrondissement qui brûlait. Ah mais ça a fait toutes les chaînes d'infos, etc. Alors, au bilan, il y a eu, je crois, 3 blessés légers. Et je peux vous dire que des centres de tri de déchets, ils en brûlent tous les jours en France. Sauf que là, c'était début avril, tout le monde en a parlé. C'est ça, si vous voulez, le problème.
Quentin.
On parlait des néo-ruraux, ne serait-ce que ce terme-là, être un néo-rural, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être une chose sur le provincialisme que nous disait Antonin, parce que finalement, les Parisiens, ils le payent un peu en allant s'installer, ou même en étant en week-end de temps en temps en région.
Oui, bah, si vous voulez, si quelqu'un vient chez vous et commence à essayer de vous expliquer comment vous devez vivre, vous le prenez assez mal. Alors, ceci dit, moi, je ne suis vraiment pas dans une bataille Paris contre province ou province contre Paris. Je le pense, je l'écris. Moi, j'aime Paris, j'aime Montbéliard aussi, ma ville, j'aime les deux, et je ne veux pas les opposer. Je dis simplement qu'il faut pouvoir les lier, il faut pouvoir vivre les deux ensemble et que cela suppose que le mépris parisien diminue un petit peu.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Je comprends pas le principe de ce quiz. Si le but est de retrouver qui a dit les pires trucs parisianistes de l'histoire, c'est moi, dans le groupe WhatsApp de l'émission. Va pas y avoir beaucoup de suspense, s'exclamait Manon en découvrant le principe du quiz aujourd'hui. Oui. Détrompez-vous, aussi vertigineux que ça puisse sembler à qui vous a déjà vu engloutir un Hugo Spritz à 18 euros à la terrasse du Cornichon en bitchant sur la revue de presse régionale de Quentin. Il n'y a plus parisianiste que vous, Manon. Il y a nos champions du jour. Des as du snobisme, des épées de l'entre-soi germano-pratin. Le principe est simple, je vous lis des citations pas piqué des hannetons, et vous me dites qui a eu l'audace de dire de telles conneries. Et on commence par un classique. Attention, âme sensible, Poitevine ou Mosellane, première déclaration, Manon Quentin, qui a déclaré « Mon Dieu, avec le gros Bershka, oh là là, sur la place du village ». Est-ce Frédéric Becbédé en dédicace à Tourcoing ? Est-ce Anna Wintour, dont le Range Rover était tombé en panne à Dreux alors qu'elle se rendait à Deauville ? Ou une personne qu'on connaît bien ici ?
Une personne qu'on connaît bien ici,
ouais. Aïe, 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 réponse ouais. C pour zéro point, évidemment, ouais. Évidemment. Mais attention, l'échauffement est terminé, place aux vraies questions. Qui a dit, ou plutôt, allez, je vous aide, quel académicien ou académicienne a dit ?
De la Starac ?
Je pense qu'un point en moins s'impose.
On va voir deux.
Nous sommes à moins un à zéro. Qui a dit Paris et la France, la province, c'est le décor ? Est-ce Éric Orsenna ? Est-ce Jean d'Ormesson ? Ou est-ce Marguerite Yourcenar ?
B,
C.
Voilà,
c'est Jean d'Ormesson. Non, d'Ormesson, il aurait pas dit ça.
Oh, Jean d'O.
Non,
Jean d'O, c'était la finesse. Jean d'O, c'était un homme qui était attaché à la province. Bonne réponse, Marianne, oui. Réponse B, l'écrivain préféré de Cyril Lacarrière qui s'était abonné au Figaro rien que pour ses éditos, Jean d'Ormesson. Non, Quentin, je vous vois frémir, je vois vos yeux s'éclairer d'une lueur perverse. Non, merci, nous ne voulons pas entendre votre imitation de Jean d'Ormesson. Gardez ça pour la tournée des humoristes inter 2026.
Dommage.
Non, c'est dommage, c'est pas dommage. Attention, on continue notre voyage au pays des snobs parisiens. D'après vous, qui a déclaré en 2015, à propos de la ville de Dunkerque, ville chargée d'histoire s'il en est, « Je ne peux pas me vanter d'y avoir écumé les boîtes de nuit. Ça m'a semblé d'une tristesse, cette ville. C'est un port, certes, mais ce qui marche vraiment, ce sont les cigarettes et l'alcool. »
On dirait Pierre Fourade, ça.
Est-ce Manon Mariani ? Est-ce Yann Moix, dont on découvrira un jour qu'ils sont une seule et même personne ? Ou est-ce Catherine Deneuve ?
C'est
B. Oh, c'est Yann Moix, peut-être.
Yann Moix, ça sent bon, le Yann Moix.
Je vois bien Catherine.
Vous voyez bien Catherine ?
Ouais.
Elle est jamais là dans le Kerk, je
pense. Ah, trompez-vous, bonne réponse de Manon Mariani. Ah, et oui.
C'est bon.
S'il lui est arrivé d'aimer certains ports, comme Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, la catoche, comme l'appelle Cyril, est loin d'aimer tous les ports. Et visiblement, celui de Dunkerque ne lui a pas laissé un souvenir impérissable, mais il y a encore plus snob que catoche. Mes chers amis, qui a dit, en parlant du président Hollande, je cite, « Tu imagines la volonté qu'il faut pour passer tous ses week-ends en Corrèze pendant 20 ans ? Imagine-toi en Corrèze un seul dimanche, la déprime. Alors lui, tous les mercredis soirs, se dire qu'il va prendre sa bagnole le jeudi matin pour aller en Corrèze ?» Selon vous, à qui doit-on cette analyse frappée au coin du bon sens ? Manon Mariani, Rachida Dati ou Malek Bouti ?
B ! Vraiment, je suis sûre que c'est elle.
Bah oui, aucune hésitation. Peut-être un point bonus pour quand on n'a pas d'hésitation. Notre invité a une idée, peut-être.
Moi, je pensais plutôt Malek Bouti.
Ah. C'est une bonne réponse de Francis qui est rentré dans le quiz, comme ça. Ouais. Il marque le point. Et Quentin, vous n'avez rien dit, vous.
Laissez-moi peut-être jouer un petit peu. Enfin, j'en sais rien.
Après, il est de mauvaise humeur, Quentin. Aujourd'hui,
on reviendra en deuxième partie sur les raisons de cette humeur chafouine. Pour l'instant, suspense. Bonne réponse de Francis. Oui, si elle ne l'a pas dit, bon, Rachida a certainement pensé, mais c'est vrai, la bonne réponse était Malek Bouti. Vous vous souvenez de Malek Bouti ? Messi, ancien député socialiste, ancien président de SOS Racisme, avant de bifurquer puisqu'il sera ensuite responsable éthique à mi-temps au PSG et directeur des relations institutionnelles de Skyrock. Ah ben tiens, nous qui cherchons un directeur des programmes en ce moment. En tout cas, ses propos choquants sur la Corrèze ne seront pas oubliés ici puisque je vous rappelle que Cyril, aussi corrézien que son idole Jacques Chirac, s'est fait tatouer les armoiries de Brive juste au-dessus du CIF. Petite info bonus que je vous donne car le gay savoir ne connaît pas de limite. Mais attention, j'ai mieux. Oui. Plus cynique en tout cas. Manon Quentin, qui a dit « La province, c'est là où les gens regardent TF1 sans second degré ». Est-ce Patrick Besson, lorsqu'il était au point ? Est-ce Alain Finkielkraut, lorsqu'il était à l'ouest ? Ou est-ce Elisabeth Lévy, lorsqu'elle était à la buvette ?
Non, pardon, j'avais pas entendu
Bah,
non, bah,
et vous avez dit quoi ?
Ah,
je vais dire B alors.
Mais c'est une mauvaise réponse, Manon, et c'est une bonne réponse, effectivement, de Quentin, Patrick Besson. Alors, on reconnaît pas Patrick ? Finky n'aurait jamais dit ça, n'est-ce pas ?
Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là. Ah ben ça a commencé. Et oui, ça a commencé.
L'émission a commencé.
On est à l'antenne depuis 5 minutes.
5 minutes, mon Finky. Iconique.
On est depuis 5 minutes.
Iconique. Oui, oui, oui. Francis, vous vouliez ajouter quelque chose.
Ah ben moi, j'ai aussi une devinette à vous soumettre.
Ah, ah bah attendez, à la fin du coup, ça sera la question qui départagera
la
tout le monde.
La question bonus.
D'accord. Qui a dit « Vous êtes déjà allé à Saint-Nazaire ? Je vous le déconseille, c'est horrible. Il faut tout casser et refaire. C'est dégueulasse. » Est-ce Jacques Lang,
où c'est
Jean Nouvel ?
Ça où c'est ?
Ou Éric et Ramzy ?
C'est... Éric et Ramzy.
Jean Nouvel, c'est drôle. B.
Jean Nouvel, ça aurait été énorme. Mais non, c'est... Vous avez dit ?
Éric et Ramzy.
On écoute la réponse.
Vous êtes déjà allé à Saint-Nazaire ?
Non, non, malheureusement non.
Je vous déconseille d'y aller. C'est horrible, elle est horrible. Il faut
mais
tout casser et refaire.
Mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a à
Saint-Nazaire ? C'est dégueulasse.
Ils étaient quand même bien meilleurs dans les Dalton. Alors, pour l'instant, les scores sont figés, car je crois que nous avons une ultime devinette, puisque l'invité va rentrer dans le quiz pour poser une question.
Oui, alors, savez-vous qui a dit « Il faut parler aux 13 heures de TF1 ou de France 2, parce que c'est à ce moment-là que les provinciaux rentrent chez eux pour manger ».
Emmanuel Macron.
Son service com.
Oh, j'ai gagné le quiz pour la première fois de l'histoire.
Vous alliez enlever le casque et faire un tour d'honneur. Non, on se casse.
C'est possible. Je vais vous dire une chose. S'il y avait un public dans ce studio, comme ça sera le cas d'ailleurs l'année prochaine.
Il y aura.
Probablement. Ouais. J'aurais fait un tour d'honneur volontiers. Quand le parisianisme écrase la France. Tant de quoi, Quentin, vous voulez partir avec deux points de moins
ah
demain.
Non, je disais tant de talent.
Bravo, Quentin. Quand le parisianisme écrase la France, c'est le titre du livre de notre invité qui vient de paraître aux éditions de l'Aube, Francis Brochet. Dans les médias aussi, on a commencé à en parler. Ce parisianisme, il se fait sentir. On va pas s'épargner. Dans le choix des sujets même des journalistes, ça se fait sentir.
Oui, bien sûr. On a parlé des gilets jaunes. Une étude a été faite. Au moment où les gilets jaunes commencent vraiment à s'exprimer, l'étude a été faite par un organisme de sondage, etc. Il avait regardé toutes les unes de la presse régionale et de la presse parisienne. Mmh. Et pendant que la presse régionale était unanimement sur les gilets jaunes, la presse parisienne était sur la fuite du président de Renault au Japon.
Carlos Ghosn. Ah oui, vraiment des centres d'intérêt assez différents.
Un peu différents.
Vous dites que les journalistes les plus médiatiques sont formatés par Sciences Po Paris. Là, je vais vous dire de faire très attention, Francis, parce que j'aimerais que vous me citiez un seul exemple de ce que vous avancez.
Écoutez, j'ai déjà beaucoup d'ennemis, donc je vais arrêter là. Non, mais ce qui est vrai, c'est que Sciences Po, c'est la fabrique des élites françaises. D'ailleurs, ça se revendique comme tel. Et moi, j'ai rien contre. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que vous savez comme moi que si vous avez fait Sciences Po Bordeaux ou Sciences Po Lyon, votre niveau de considération baisse énormément. Et puis, ce qui m'embête aussi, c'est que Sciences Po, c'est quand même une école qui a connu quelques scandales. Il y a eu Richard Descoings qui a balancé l'argent par les fenêtres. Il y a eu Olivier Duhamel qui a été condamné. Il y a eu... Enfin bref, on ne va pas tous les énumérer.
D'autant plus que c'est étonnamment la deuxième partie de notre émission aujourd'hui, la chute de la maison Sciences Po.
Eh bien oui, mais la maison Sciences Po n'a pas chuté. Parce qu'à chaque fois, vous avez on serre les rangs, c'est pas grave, c'est juste des histoires personnelles. Et cette maison Sciences Po qui est censée expliquer comment on doit gouverner la France, en fait, nous donne le contre-exemple parfait de ce qu'il faudrait faire.
D'ailleurs, Francis, vous dites que ce parisianisme favorise les populismes. Dans quel sens ? Par quels moyens ?
Parce que, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre maintenant, c'est qu'on voit bien qu'il y a la tentation, vous avez parlé de provincialisme, il y a la tentation, on va dire, d'un provincialisme réactionnaire. C'est-à-dire face au parisianisme, face au mépris.
Donc il y a un danger là.
Il y a un danger de prendre le ressentiment que l'on voit monter en province, qui s'est exprimé avec les gilets jaunes, mais qui peut s'exprimer à nouveau, et dans une optique anti-élitiste, anti-parisienne, mais simpliste. Moi, je le dis, je l'écris, il faut des élites. Je veux dire, une démocratie sans élites, ça n'est pas possible. On demande simplement que les élites soient diverses. Qu'elles ne se ressemblent pas toutes, qu'elles ne soient pas toutes formées au même endroit et qu'elles n'aient pas toutes cette absence d'accent. Moi, ce qui m'embête, c'est que là, c'est une France sans accent. Moi, je rêve d'une France où l'on revendique les accents.
Une petite question là sur l'accent, parce que j'en ai déjà parlé beaucoup avec Jean-Michel Apathy, par exemple. À l'époque, il a commencé dans le métier, notre confrère Jean-Michel Apathy, on lui demandait de perdre son accent. Parce
bien
que lui, s'il voulait accéder à la radio ou la télé nationale, il fallait perdre son accent. Alors, lui, il ne l'a pas fait parce qu'il a un fort caractère. D'autres l'ont fait à son époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas en train de changer ? J'imagine mal un directeur de rédaction dire à un jeune venu de Toulouse, mon petit, si tu veux passer l'antenne, il va falloir me gommer cet accent.
Mais vous vous souvenez de Jean Castex ? Jean Castex, quelqu'un d'extrêmement fin, d'extrêmement intelligent, qui avait cet accent, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est du Gers, en tout cas du Sud-Ouest, et qui l'a cultivé. Pourquoi ? Parce que Jean Castex, c'est quand même quelqu'un qui a fait Sciences Po et l'ENA, et tout le monde a oublié ça. Et tout le monde se disait, avec cet accent-là, c'est un type sympa là, qui vient de province. Et donc, ça continue. Et dans le même temps, vous aviez Gérard Collomb venant de Lyon qui se faisait moquer parce qu'il avait l'accent un peu traînant de Lyon.
C'est vrai. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Inès de la Fressange. Ah. Elle a 67 ans, elle est française et c'est l'incarnation même de la parisienne. 1m80, silhouette androgyne, un look élégant typique du style qu'on attribue à la parisienne. Elle privilégie les pièces intemporelles et basiques comme la chemise blanche, le blazer, le jean brut, les ballerines repetto. Un style qui paraît très simple mais qui est en réalité très calibré et envié dans le monde entier. Inès de la Fressange se fait remarquer dès la âge de 17 ans. Elle commence à défiler pour de grands couturiers comme Thierry Mugler. Elle détonne dans le paysage de la mode car contrairement aux autres, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle est même surnommée le mannequin qui parle. En 1983, c'est dire, en 1983, elle est repérée par Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel. Il veut en faire une star car il lui trouve un air de ressemblance avec Coco Chanel. Inès de la Fressange devient donc égérie de la marque et elle est la première mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture. Son image va faire le tour du monde et la populariser comme The Mannequin, pas typiquement parisienne. Sauf que ce contrat va lui jouer des tours, car en 1989, elle est choisie comme modèle pour représenter la nouvelle Marianne, le buste sculptural. Un honneur, car c'est la première mannequin qui a le droit à cette proposition. Jusque-là, c'était plutôt des actrices comme Catherine Deneuve ou Brigitte Bardot. Mais Karl Lagerfeld ne veut pas qu'elle l'accepte. Elle a signé un contrat d'exclusivité avec lui et elle doit s'y tenir. En bonne parisienne, Inès de la Fressange entend faire comme elle veut et elle accepte malgré tout, ce qui entraîne la rupture de son contrat avec Chanel. Lagerfeld et elle resteront fâchées pendant des années. Et ce n'est pas la seule bataille juridique que va devoir mener Inès de la Fressange. En 1991, elle lance sa propre marque avec qui porte son nom. Elle ouvre sa boutique Avenue Montaigne dans le 8e où elle vend du prêt-à-porter, du parfum et d'autres articles. L'ambiance typique parisienne chic plaît et s'exporte à l'international. Les Américains s'arrachent les produits Inès de la Fressange. Mais en 1999, elle perd l'usage de sa marque car elle n'en est pas l'actionnaire principal. Décidément, elle ne la récupérera qu'en 2004. Une période où elle revient en force, elle devient ambassadrice de Roger Vivier, collabore avec Uniqlo pour des collections et publie en 2010 un ouvrage remarqué, La Parisienne, un guide de style à la fois drôle, à la fois chic, pratique, devenu une sorte de référence. Aujourd'hui, Inès de la Fressange a plus de 65 ans et continue de faire des shootings pour des grands magazines de mode. Inès, la Parisienne intemporelle.
Je veux dire, Manon, Inès n'a pas d'âge, de toute façon.
C'est vrai.
Elle démontre bien qu'il y a des très belles choses à Paris aussi.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
L'homme qui avance à présent vers le micro repousse sans cesse les frontières du gai savoir. Que ce soit à l'antenne, bien sûr, mais également hors antenne, où pour quelques happy few, il révèle des secrets bien gardés. Dernièrement, dans les petites combines borderline de Pierrot le Fou, un focus très intéressant sur le poppers.
Ah oui.
Cette drogue qui visiblement circule pas mal dans ces soirées, et qui, contrairement à ce que pensait cette Saint-Nitouche de Marine Leonardi, ne se consomme pas par l'arrière. Eh bien, Pierre nous apprenait que, je cite ses mots, « Si tu verses un peu de poppers dans un perrier, ça infuse dans la pièce et tout le monde est vite super excité. »
C'est vrai.
Merci Pierre, qu'est-ce qu'on apprend les gars ? C'est absolument incroyable. C'est pas fini, puisque vous allez nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur le parisianisme, que vous connaissez bien, en une minute chrono.
Bah écoutez Mathieu, c'était un moyen comme un autre de terminer ses stocks de perrier, une astuce que connaissait déjà Manon Mariani, contrairement au parisianisme, qui pour elle n'est pas un problème. Et pourtant c'est un phénomène qui écrase la France et qui tente à s'aggraver, d'après notre invité Francis Brochet, journaliste au bureau parisien des quotidiens régionaux du groupe Ebra. Pour lui, ce parisianisme se concrétise évidemment dans l'hypercentralisation jacobine de la France. Tous les pouvoirs sont concentrés à Paris, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir médiatique. Les Parisiens pensent ainsi contrôler toutes les intelligences. On est à Paris, on regarde le reste des territoires de très haut. Par la force des choses, tout doit converger vers la capitale, à l'image des TGV. C'est bien que lorsqu'une ligne relie deux villes régionales, on calcule encore leur distance par rapport à Paris. D'ailleurs, la question des transports a explosé à la figure des élites parisiennes au moment des Gilets jaunes. Les Parisiens ne voient voit pas ce qui se passe en France, nous dit notre invité. Surtout pas les journalistes, qui sont plus de la moitié à exercer en région parisienne. Pourtant, constitutionnellement, la France n'est pas un pays centralisé, elle est même décentralisée depuis 2005. Mais d'après notre invité, l'incompréhension entre Paris et le reste du pays, qui n'a pas de problème à appeler la province, hein, n'a jamais été aussi explosive dans tous les plans de relance. Par exemple, après le Covid, Paris et l'Île-de-France ont été mieux servis que le reste de la France. Le ruissellement ne marche pas non plus dans ce sens-là. Une donnée est pourtant essentielle à prendre en compte. Un tiers des Parisiens seulement est né à Paris, un tiers est né en province. Comme quoi la France, la province n'est pas le décor de la France, n'en déplaise à feu Jean d'Ormesson. Reste que pour les uns et les autres, un Perrier Rondel n'a pas la même signification.
Merci mon cher Pierre.
C'est pour cette fin, à l'antenne.
Tout en finesse. Et je dois dire que vous avez une drôle de conception des minutes. Oui. Ils ne font pas tout à fait 60 secondes avec vous, mais le parisianisme valait bien
c'est
ça.
C'est le poppers. Ça.
C'était un bon résumé quand même.
Ah, excellent.
Ah, merci.
Trop long.
Vous êtes trop long, mais pas mal.
J'ai coupé en direct pourtant.
Enfin, lui, il ne fait aucune distinction. Paris-Province, pour ce viking de la comédie, tous les territoires sont à conquérir.
C'est assez cocasse pour moi d'avoir à parler de parisianisme cette semaine, car je reviens d'un long week-end en Écosse. J'ai couru le marathon d'Édimbourg. C'était une idée de ma femme pour qu'on fasse un truc à deux. C'était où ça, où elle venait avec mes potes et moi, Wellfest. Eh ben, on va aller courir un marathon. Et comme ça tombait le week-end de mon anniversaire, elle m'a dit « Ce voyage sera ton cadeau ». Moi qui avais demandé une PS5, je suis gâté, dis donc. Et sur les dossards, il y avait nos prénoms. Et à un moment, il y a un Écossais qui a hurlé « Come on, Harold, love you, mate !» Et je me suis dit « Ici, c'est pas comme à Paris, on aime les autres !» Et d'un point rageur, je lui ai répondu dans la langue de Molière « Moi aussi, je t'aime, mec !» Puis face à son regard interrogé, j'ai compris qu'il parlait au gars qui courait à côté de moi, qui s'appelait aussi Harold. Voilà.
Oh, non.
Et je me suis demandé finalement si la problématique d'aujourd'hui était une problématique de capitale de pays. Si à Édimbourg, il y avait un édimbourianisme, si les Écossais d'Édimbourg prenez les autres de haut. Mais j'ai pas eu cette sensation. Peut-être car les Écossais, qu'ils soient d'Édimbourg ou des Highlands, de toute façon, je comprends rien quand ils parlent. Voilà. On dirait François Bayrou quand on lui demande des explications crédibles sur ce qui s'est passé à Bétarame. Le diable de Tasmanie. Comme s'ils avaient un mixeur coincé dans l'œsophage. Et d'un seul coup, isolé face à des Écossais un peu rustres qui rigolent fort à coups de grandes tapes dans le dos et dont je comprends pas du tout le dialecte, j'ai compris. J'étais comme un Parisien au salon de l'agriculture. Je me souviens d'un conseil que m'a donné Manon le jour où je l'ai accompagné passer son examen du code de la route. Fais comme moi, picole. Ma seule manière de pouvoir échanger avec eux, c'est de me mettre une race en leur compagnie. Après tout, c'est grâce à l'alcool des stands de pinard que les Parisiens arrivent à s'extasier devant les animaux du salon de l'agriculture. Oh, une vache ! Incroyable ! Regardez les enfants ! Elle va avoir un petit ! Mais il est bizarre ce veau ! C'est parce que c'est pas un veau, ça. Elle a bouffé une salope ce matin. Ah, d'accord. On critique le parisianisme en province, mais on est bien content de les trouver, les Parisiens, pour leur vendre des trucs plus chers. En montagne, c'est limite s'ils facturent pas la neige. Alors, attention, je suis pas en train de défendre Paris. Hein. Moi, je m'en fous, je suis pas de Paris, je suis canet. Quand je dis que je suis canet, une fois sur deux, on me dit « Ah, le Sud, le festival, j'adore ». Pas du tout, hein. C'est pas Caen, c'est Cannes, ça. Caen et Cannes ont à peu près autant en commun qu'un cabinet de notaire et un trampoline park. Néanmoins, force est de constater que depuis que je vis à Paris, j'aime le dimanche. Avant, pour moi, le dimanche, c'était le deuil de la semaine. En province, la vie s'éteint le dimanche. Tu te réveilles, petite activité sportive, le repas du dimanche midi, la balade digestive, une soupe à 18h, un suppôt et au lit. Si t'as de la chance, tu meurs dans la foulée, sinon tu remets ça la semaine d'après. Moi, j'adore la province. Et je pense qu'il faut, combattre cette idée comme quoi il ne se passe jamais rien. La province est pleine de richesses culturelles. Tenez, un extrait du journal Le Télégramme sur la florissante industrie du porno à Sedan. Je cite, un Ardennais de 50 ans s'est tissé à la force du poignet au deuxième rang des producteurs de films pornographiques en France derrière Marc Dorcel. Le gars, on lui doit des chefs-d'œuvre comme La Doctoresse à de belles fesses et Le Gangbang de Véronique quand même. C'est pas rien. Et que dire du très prisé championnat du cri de la mouette de Dunkerque? Vous savez faire le cri de la mouette, vous? Bien sûr que non. Évidemment que nos régions ont du talent. Paris, province, faut arrêter. L'herbe n'est jamais plus verte chez les autres. En plus, il n'y a pas d'herbe à Paris. Donc comme ça, ça arrive.
Merci beaucoup, Harold Barbet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Il manque juste une info que vous n'avez pas communiquée dans cette chronique humoristique, c'est que votre femme vous a mis quand même une heure dans la vue dans ce marathon.
Ah, je crois que les infos vont vite.
Les infos circulent vite. On est des journalistes parisiens peut-être, mais journalistes avant tout. En spectacle vendredi à Lille. Harold Barbet, les mercredis jusqu'au 11 juin et au théâtre Le Métropole et le 17 juin sur scène au Hellfest Off. Merci beaucoup Francis Brochet, je rappelle votre dernier essai, Quand le parisianisme écrase la France, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube, même si évidemment une réédition mise à jour s'impose maintenant que vous avez rencontré Manon Mariani. Zoom, zoom, zen.